J'ai souvent appelé de mes voeux une loi qui ferait pendre une douzaine de banquiers par an. Jonathan Swift. Salut à tous, c'était Chantal de Paris. Alors les émissions de Daniel Mermel avec l'économiste, là, c'était extraordinaire. Allez, continuez sur cette belle route. Au revoir.
Bonjour Daniel, bonjour à tous. Voilà, il paraît que le célèbre Henry Ford a dit en son temps ceci. Il est une chance que les gens de la nation ne comprennent pas notre système bancaire et monétaire. Parce que si tel était le cas, je crois qu'il y aurait une révolution avant demain matin. Alors je devine que si M. Ford a dit cela, c'est parce que le système bancaire et monétaire recèle une arnaque quelque part. Merci beaucoup. Au revoir.
Bonjour, c'est Marie-Poul de Villejuif. Je viens d'entendre aux infos de 10h sur France Inter que le nouveau prix Goncourt ou Renaudot, je ne me souviens pas duquel prix, le prix accordé à cet Afghan, il demande la régularisation des 30 réfugiés à Calais. C'est super qu'il se serve de sa notoriété. Et je pense à l'auditrice du réseau Sans Frontières qui nous a signalé ce cas. Elle doit avoir un peu plus d'espoir pour ces jeunes Afghans. C'est pas mal.
Oui, bonjour, je suis Mélanie, je vous appelle de l'Allier. Voilà, depuis hier, j'entends que l'on a arrêté des jeunes qui ont commis des actes contre les lignes TGV. Alors, tout à Prague, j'entends qu'ils sont contre le fichier Edwige, qu'ils sont, ce sont des gens qui assistent au sommet intermondialiste, ce sont des gens qui étaient à l'anti-sommet de Vichy. Et je me dis, mais au fait, mais moi j'ai signé aussi contre le fichier Edwige qui a été dénoncé par le syndicat de la magistrature. Eh bien, moi, les altermondialistes, c'est vrai, je ne me suis pas déplacée pour des raisons X ou Y, mais je soutiens ces personnes parce que ils ne font que dénoncer le capitalisme galopant. Le sommet de Vichy, ben oui, qu'est-ce que ça veut dire cette immigration choisie voilà, donc je ne savais pas en fait que je commettais des actes répréhensibles. Et je trouve que c'est extrêmement grave, je me dis, ben, quand est-ce qu'on va venir m'arrêter? Mais je suis contre le terrorisme, je précise, je suis contre le terrorisme, je suis contre toutes les formes d'attentats. Mais je suis aussi contre l'atteinte que l'État porte à ses citoyens. Voilà, et je pense qu'il y a effectivement actuellement beaucoup de choses à dire contre l'État, et je me rends compte que ceux qui vont dire quelque chose contre l'État sont peut-être des terroristes. Ça me fait vraiment très très peur. Voilà, au secours, faisons attention, vraiment, faisons attention. Et surtout, citoyens, ne vous laissez pas embarquer dans cette rhétorique-là de l'État.
Oui, rhétorique de l'État, chère auditrice modeste et géniale. Mais nous avons eu la surprise, ce 4 novembre dernier, de lire dans le journal officiel que le ministère de l'Éducation nationale vient de lancer un appel d'offres ayant pour objet la surveillance sur Internet des blogs et des forums auxquels participent les enseignants français. Le prestataire retenu, dit cette annonce en somme, devra identifier les thèmes stratégiques, décrypter les sources des débats et leur mode de propagation, repérer les leaders d'opinion, les lanceurs d'alerte et analyser leur potentiel d'influence et leur capacité à se constituer en réseau. Voilà ce que l'on pouvait lire dans le journal officiel émanant donc du ministère de l'Éducation nationale, dont le ministre est bien sûr, vous le savez, Xavier Darcos. C'est une information qui est reprise dans l'hebdomadaire Le Point, qui n'est pas un journal ultra-gauchiste, anarcho-autonome, comme vous savez. Alors, avec l'équipe de là-bas, si j'y suis, notre souci, vous savez, c'est le bien public, nous sommes un service public, et nous avons à cœur, bien sûr, d'aider notre pays et d'aider notre gouvernement, d'autant que certains d'entre nous appartiennent à une association qui s'appelle les contribuables étranglés. Alors, on a voulu tout de suite appeler le ministère afin de faire notre offre, nos offres à nous.
Secrétariat de la délégation à la communication, bonjour.
Oui, bonjour madame, c'est Roger Lambert, l'appareil. Je suis président de l'association Contribuables étranglés. Et je voulais vous faire part d'une résolution de notre association au sujet d'un appel d'offres pour un marché de surveillance dont le montant s'élèverait alors, à 100 000 euros par an. Quoi. En tout cas, moi j'ai une proposition à vous faire de la part de notre association qui est que plutôt de verser des sommes comme ça mirobolantes, astronomiques à des entreprises privées en ce moment où on sait très bien que l'État est un peu étranglé par les charges, nous on se demande, et d'ailleurs nous on est prêts à vous aider là-dedans, s'il ne serait pas possible de faire de la veille, de la surveillance citoyenne. On trouve que c'est une excellente idée, mais nous par exemple on est prêts à vous aider dans la surveillance de tous ces réseaux là qu'il faut un petit peu tenir à l'œil, quoi.
D'accord.
Par exemple, moi si vous voulez, là, moi
alors,
je travaille...
À ce moment-là, vous formulez ça par mail.
Ouais.
Et je vous donne l'adresse mail.
Ah oui, d'accord, très bien, ouais.
Il faudrait l'adresser à l'adjoint de la déléguée à ce moment-là.
Ah oui.
Donc c'est marc.bost.
Oui.
@education.gouv.fr.
Education.gouv. Parce que moi, si vous voulez, ce matin, j'ai pris le métro. Et déjà, j'ai déjà noté, moi j'ai commencé à noter des choses. J'ai entendu deux personnes qui parlaient de Xavier Darcos, qui parlaient du ministre. Alors j'ai tout noté, j'ai noté comment ils étaient habillés, la ligne. Donc c'est un grand monsieur, environ 1m85, qui portait un imperméable de couleur brune.
Mais comment voulez-vous, vous savez, il y a des milliers de personnes qui travaillent en plus. La défense, c'est pas les ducs.
Bien sûr, mais je crois que c'est pas la première fois que je le vois dans cette ligne de métro à cette heure-ci. Et si vous voulez, enfin moi, vous pouvez mettre un inspecteur en contact avec moi et cette personne. J'ai entendu plusieurs fois prononcer le nom du ministre. D'ailleurs, il disait pas Monsieur le ministre, il disait Xavier Darcos, même parfois Darcos directement. Et si vous voulez, moi, je peux accompagner un inspecteur. Je suis sûr qu'on peut le retrouver un matin. Il y a aucun problème, quoi. Et si vous voulez, nous, on va vous demander aucune contribution financière.
Ouais. À ce moment-là, vous envoyez votre proposition directement à la DELCOM. C'est mieux, je pense.
Ah, d'accord.
Donc, ministère de l'Éducation nationale.
D'accord.
110 rue de Grenelle.
D'accord.
75007 Paris.
Bon, sinon, pour le monsieur dont je vous parlais, en général, c'est vers 9h, 9h moins 5 qu'il entre à la station Alma Marceau. Donc, moi, si vous voulez, je vous laisse mes coordonnées si vous voulez mettre quelqu'un sur le coup, quoi.
Non, attends,
c'est pas pressé.
Ça se passe pas comme ça.
Et les informations qu'on récupère, on vous les envoie pas ?
Non, mettez pas que vous avez vu telle personne sur la ligne 7. Non, ça c'est un peu...
Même s'il prononce des gros mots, par exemple, à l'encontre du ministre ?
Non, mais ça c'est invérifiable, monsieur. Vous n'allez pas être pris au sérieux si vous donnez ce genre d'exemple.
Bien, merci madame.
Mais je vous en prie, au revoir. Secrétariat de la délégation de la communication, bonjour.
Bonjour, je vous appelle, c'est l'agence de détective privé Duluc à Paris. Je viens de recevoir un mail d'un de mes collègues qui me dit que le ministère a lancé un appel d'offres pour veille de l'opinion.
J'ai sans arrêt des appels pour ça.
Vous avez sans arrêt des appels?
Oui, alors excusez-moi, monsieur, est-ce que c'est un canular ou...
Vous pensez que cet appel d'offres est un canular?
Non, mais je ne sais pas, monsieur...
Nous sommes une agence de détectives privés et nous voulons répondre à cet appel d'offres. Donc j'aimerais avoir la marche à suivre, parce que c'est notre métier, nous, de faire de la veille. Donc bon, on est plutôt spécialisé dans l'adultère, etc. Mais bon, pourquoi pas travailler sur ce sujet-là, ouvrir un nouveau marché, ça nous intéresse.
Attendez, contribuables étranglés, alors eux, ils sont absolument scandalisés par cet appel d'offres et vous voulez postuler, alors au revoir.
Ah bah voilà, voilà comment on est reçu. Dans ce ministère, vous pouvez les appeler, ministère de l'Éducation nationale, c'est au 110 rue de Grenelle, 75 357 Paris SP07, vous pouvez leur écrire, et le numéro, la délégation à la communication, c'est le 01 55 55 06 59, je répète, 01 55 55 06 59. Voilà, la déléguée à ce service, responsable de ce service, c'est Véronique Mély. Le sous-directeur délégué adjoint, c'est Christian Duc. Et l'adjoint à la déléguée, c'est Marc Bost. Voilà. Vous les appelez et vous leur dites que vous avez bien compris. Faites votre offre à vous. On n'est pas obligé. Effectivement, on peut permettre à ce ministère de faire des économies en faisant de la délation. C'est vrai que tous ces enseignants qui communiquent sur Internet, qui ont des blogs, etc., c'est absolument insupportable. D'ailleurs, vous devriez tout de suite aller vous balader sur Internet pour détecter ces gens-là. Vous pouvez aussi, alors dans un autre ordre d'idées, pour remettre un petit peu d'ordre dans cette France en proie à la crise financière, il faut qu'on se serre tous les coudes et qu'on arrête de faire de la politique. Hein, l'heure est grave, donc il faut vraiment qu'on remette de l'ordre dans la maison France. Hein. Alors là, autre chose, c'est tous ces fraudeurs à la sécurité sociale. Vous avez des fraudeurs à la sécurité sociale. Oui, il y a, paraît-il, en France, des gens qui se font porter malades, hein, qui vont voir un médecin et puis qui se font faire une ordonnance et puis en fait qui n'ont rien du tout. Ça existe, hein, c'est honteux, c'est terrible. Et alors ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on manque d'inspecteurs. La sécurité sociale manque d'inspecteurs pour débusquer, pour démasquer ces tricheurs. Alors, il existe des petite société privée qui se charge un petit peu comme la maison du Luc là en question de faire le nécessaire, d'appliquer la loi et d'aller traquer les tricheurs. Et c'est notre sujet du jour, c'est la contre-visite patronale. Il faut lutter contre l'absentéisme injustifié. C'est notre enquête du jour et notre cause, on peut dire. Aujourd'hui, auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la Bastille, j'y suis, au 01 56 40 37 37.
De 1961 à 1962, l'OAS, organisation armée secrète, assassina au nom de l'Algérie française plus de 2200 personnes, des serviteurs de l'État dans l'exercice de leurs fonctions, mais aussi aveuglément des anonymes, plastiquage, attentat à la voiture piégée, mitraillage en pleine rue. Depuis la fin de la guerre, plusieurs lois d'amnistie ont été promulguées à la faveur des anciens de l'Algérie française. Et plus grave encore, on assiste depuis quelque temps à la multiplication de stèles, de plaques, qui rendent hommage aux acteurs de ces actions terroristes. Mémoire à vif invite Jamel Zaoui à venir présenter son film « OAS, un passé très présent », accompagné de Jean-Philippe Houldaoudia, dont le père a été une des victimes de l'OAS le 15 mars 62 à Alger. Venez nous rejoindre et débattre avec eux à Limoges, le jeudi 13 novembre au cinéma Le Lido à 20h30.
Salut Mermé, est-ce que tu te souviens que vendredi 14, on organise la projection de Chomsky et compagnie au 33 rue des Vignoles, donc le siège de la CNT? Mais t'es le bienvenu, évidemment, on t'attend toujours et peut-être pas tous tes auditeurs, mais quelques-uns, parce que ce sera une projection de soutien à un camarade de nous qui s'appelle Serge Reynaud, qui et militant de la CNT-PTT, qui a été mis à pied 2 ans pour fait de syndicalisme. Donc la répression, c'est quelque chose qui se généralise, et nous, à notre petit niveau, on essaye d'être solidaires en se serrant les coudes. À bientôt, vendredi, au 33 rue des Vignoles, à 20h. Salut.
Bonjour, ici les Neuf Fontaines, menacées de destruction par l'autoroute A65. Ce matin, nous nous sommes rassemblés pour défendre ce lieu emblématique, et pour la deuxième fois, nous avons réussi à stopper la machine à détruire la forêt. Nous continuons à résister. Toutes les infos supplémentaires et les photos de la journée seront sur le site de la RLP, qui donc sur www.asso-arlp.org. Merci beaucoup et à très bientôt.
Les arrêts maladie, ils coûtent chaque année 7 milliards d'euros à la sécurité sociale. Avec 231 millions de jours d'arrêt par an, la France détient le record européen. Un chiffre d'autant plus vertigineux que d'après la CNAM, près d'un arrêt sur 5 est injustifié. Problème, par manque de moyens, la Sécu contrôle rarement les arrêts maladie inférieurs à 2 mois.
Le laisser-aller un petit peu de la sécurité sociale elle-même a tout de même entraîné un développement des contrôles privés faits par les employeurs eux-mêmes.
Ne laissez plus l'absentéisme abusif pénaliser votre entreprise. Contrôle médical, Medivérif.
Bonjour monsieur, c'est pour un contrôle médical. C'est pour un contrôle médical. C'est pour un contrôle médical.
Salut, c'est là-bas si j'y suis, Daniel Mermet avec Renaud Lambert. C'est pour un contrôle médical.
Flight number 2, arriving from New York.
C'est pour un contrôle médical.
Pascal Pascariello et Renaud Lambert sont chefs d'entreprise. Pascal Pascariello et Renaud Lambert sont inquiets. Ils font appel à Medivérif.
Bonjour.
Oui, bonjour, je suis bien à Medivérif.
Oui. Voilà, j'ai une entreprise. J'ai quelques doutes sur les arrêts maladie de mes salariés.
Moi, j'ai plusieurs salariés qui n'ont pas trop l'esprit à travailler, si vous voyez ce que je veux dire.
Donc, je voulais un petit peu connaître quel est le fonctionnement de Medivérif.
Parce que ça peut m'intéresser.
D'accord. Donc, nous, on se base sur la loi de mensualisation.
D'accord. Donc, on se base sur la loi de mensualisation de 1978.
Qui dit qu'en contrepartie des compléments de salaire que vous versez à vos employés, vous avez un droit de regard sur leur état de santé.
Donc, vous êtes en droit de savoir si l'arrêt est justifié ou non au jour du contrôle.
Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille avec plus de 3000 médecins sur toute la France. On envoie le médecin le plus proche de chez votre salarié pour effectuer une contre-visite.
Le médecin va se présenter de façon inopinée à son domicile durant ses heures de présence obligatoires pour déterminer si oui ou non il y a une pathologie et si cette pathologie empêche bien le salarié de reprendre son poste.
Et le salarié, il a le droit de refuser la venue de votre médecin ou pas?
Alors, c'est assez risqué et péril, hein, puisque s'il refuse, il est en tort et c'est équivalent à un arrêt de travail non justifié. Il n'a pas droit à son complément de salaire.
Parce que moi, je lui paye, c'est bon, j'ai plus à lui payer, quoi, c'est ça?
Voilà. Ah oui. Et également, hein, si l'arrêt n'est pas justifié pour une quelconque raison, vous pouvez également envoyer une copie du rapport de notre médecin au médecin conseil de la Sécurité sociale dont il dépend pour qu'il suspende le versement des indemnités journalières sur la même période. Comme ça, ça fait coup double.
Et combien ça me coûte à moi?
95 euros hors taxe.
Plus éventuellement des majorations pour frais kilométriques ou honoraires libres du médecin.
D'accord, ok.
D'accord. Ça fait longtemps que vous existez, vous?
2005, il me semble.
Ah, mais donc vous en faites beaucoup des contrôles?
Oui. De plus en plus, de toute façon, en plus. Hein. Donc, voilà, ça augmente chaque année.
Alors voilà. 13 milliards de paquets fiscaux, 10 milliards pour renflouer les banques, et ce n'est pas tout, 374 millions d'euros en 2006. 374 millions d'euros, ça représente la fraude sociale en France. Et la fraude sociale, ce sont les faux chômeurs, les travailleurs au noir et les faux malades. Voilà contre quoi il faut lutter, bien évidemment, en priorité, les faux malades. Aujourd'hui, les faux malades. Et nous avons décidé, avec Renaud Lambert, de vous présenter ce dossier absolument brûlant et prioritaire. Le contrôle des arrêts maladie. Alors, la Sécurité sociale, évidemment, n'a pas les moyens d'avoir assez d'inspecteurs pour contrôler ces faux malades ou ceux qui prolongent leur arrêt maladie. Aussi, voit-on, ces temps-ci, se développer toute une quantité d'officines privées qui font le travail à la place de ces contrôleurs, qui font ce travail et qui, pour cela, eh bien, ont recours à des médecins qui font le travail, qui vont inspecter ces malades ou ces faux malades et qui, bien souvent, vous allez le voir, les remettent au travail. Il en est des médecins comme des banquiers. Vous avez entendu ce précepte, ce conseil de Swift. Jonathan Swift, le génial Jonathan Swift. On ne va peut-être pas faire aux médecins ce que Swift souhaitait qu'on fît aux banquiers. Mais tout de même, il y a là quelque chose d'absolument urgent, amis. Auditeurs modestes, c'est géniaux, c'est jusqu'à 16h, c'est là-bas si j'y suis, c'est pour un contrôle médical.
C'est pour un contrôle médical.
Je veux des
maladie d'importance, de bonne fièvre continue avec des transports au cerveau, de bonne fièvre pourprée, de bonne peste avec hydropisiforme, de bonne pleurésie avec inflammation de poitrine. C'est là que je me plais, c'est là que je triomphe, et je voudrais, monsieur, que vous eussiez toutes ces maladies que je viens de dire, que vous fussiez abandonnés de tous les médecins désespérés à l'agonie, pour vous montrer l'excellence de mes remèdes et l'envie que j'aurais de vous rendre service.
Je vous suis obligé, monsieur, pour toutes les bontés que vous avez pour moi.
Donnez-moi votre peau, allons donc que l'on batte comme il faut. Oh, je vous ferai bien aller comme vous devez. Oh, ce poux-là fait l'impertinent. Je vois bien que vous ne me connaissez pas encore. Qui est votre médecin?
Monsieur Purgon.
Cet homme-là n'est point écrit sur mes tablettes entre les grands médecins. De quoi dit-il? Que vous êtes malade?
Et il dit que c'est du foie et d'autres disent que c'est de la rate.
Ce sont tous des ignorants. C'est du pognon dont vous êtes malade.
Bonjour monsieur, il s'agit d'un contrôle médical.
Docteur Ernaud, médecin Medivérif.
Vous êtes bien monsieur, je vais vous dire, vous êtes en arrêt de travail?
Non, pas de travail.
Tanushan.
Tanushan, oui.
C'est là?
Oui.
Bien, on va entrer. Pardon.
Tanushan.
Bonjour monsieur, je suis médecin et on me demande de vous examiner parce que vous êtes en arrêt de travail. Ouais. Je fais partie de la société Medivérif, vous connaissez cette société Medivérif? Je fais ça à la demande de l'employeur, mais je ne connais pas votre employeur et je connais encore moins ses intentions. Ouais. C'est Geodev, qu'est-ce qu'on fait dans cette boîte-là?
Travail mécanique normalement.
Alors qu'est-ce qui vous est arrivé? Pourquoi vous êtes-vous arrêté?
Parce que tout le temps il est soudé.
C'est une soudure à quoi? Soudure à l'arc?
Soudure à l'arc, mais tout.
Tout?
Soudé tout le temps.
Toute la journée? Ouais. Tous les c'est jours. Des grosses soudures ou des petites soudures?
Grosses soudures.
C'est du gros soudure?
Ouais.
Des grosses poutres?
Oui. Comme ça, c'est trop mal ici.
Le jeune homme indique son coup.
Et qu'est-ce qu'il vous a donné le médecin comme médicament?
Il a donné...
Allez-y, montrez-moi l'ordonnance du médecin.
Il quitte la pièce pour aller chercher ses médicaments. Le docteur Ernaud en profite pour nous donner le fond de sa pensée.
La douleur alléguée ne me semble pas justifier un arrêt de travail. Voilà, c'est bien. Allergodyle, Naxia.
Soudure toute la journée, ça c'est...
C'est ce qu'il semble dire, oui.
Ça fait beaucoup, non?
Eh bien, je ne connais pas véritablement ses conditions de travail. Vous avez tout un dossier, mais vous arrêtez souvent le travail?
Non.
Le jeune homme est revenu avec une liasse de documents. À la lecture, nous apprenons que son employeur rechigne à lui payer ses heures supplémentaires. Pour pousser son salarié à la démission, l'employeur le contraint à des tâches de soudure, sans arrêt, toute la journée.
Il y a un problème, il y a un conflit avec son employeur. Oui, en réalité, je ne veux pas. Oui, d'accord, je ne veux pas. Alors, au total, monsieur, bon, vous êtes en bonne santé, heureusement. Alors, votre problème, si vous voulez, n'est pas un problème médical. Alors, moi, aujourd'hui, on me pose des questions, je dois dire. Est-ce que l'arrêt est justifié aujourd'hui? Ou bien l'arrêt n'est plus justifié? Alors, moi, aujourd'hui, je vais dire, l'arrêt, aujourd'hui, n'est pas justifié. Donc, en conséquence, cela vous oblige à reprendre le travail demain. Alors, donc, je vais cocher. Donc, l'arrêt n'est plus justifié.
En conséquence, reprise demain. Voilà, je n'ajouterai rien de plus. Allez, au revoir.
Merci.
Alors, là, si ça a un conflit avec l'employeur, il y a quand même un élément qu'à prendre en compte, qui est que c'est l'employeur qui demande une vérification. Est-ce que là, votre visite ne va pas jouer en la défaveur de ce monsieur ?
Je ne sais pas quelles sont les intentions de son employeur. Je ne connais pas ses intentions. S'il a envie de se débarrasser d'un travailleur qui est malade, eh bien, l'employeur serait content que je dise qu'il est en arrêt justifié. Si au contraire l'employeur souhaite me trouver en défaut, il souhaite que je dise qu'il n'est pas, que son arrêt n'est pas justifié. Mais enfin, moi, je ne sais pas qui a raison et qui a tort. Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais rien. Je peux simplement répondre aux questions qui me sont posées. Aujourd'hui, manifestement, son arrêt n'est pas justifié.
Un créneau porteur. Pour les patrons, la sécurité sociale fait preuve de laxisme dans le contrôle des arrêts maladie. Alors, depuis quelques années, des cabinets privés de ce genre exploitent à fond le filon. Pour cette société de contrôle privé, une contre-visite médicale sur deux débouche sur un arrêt de travail injustifié. Chaque visite est facturée 95 euros à l'employeur. 40 euros pour le médecin, 55 euros pour le cabinet privé. Cette petite entreprise ne connaît pas la crise. En 3 ans d'existence, son chiffre d'affaires a été multiplié par 10, 560 000 euros en 2006.
Bon après-midi, au revoir.
Pourquoi autant d'arrêts maladie sont-ils abusifs ? Qui est responsable de cette dérive ? Les patients ou les médecins ?
Franck Charpentier, patron de MediVérif.
Aujourd'hui, nous sommes au service des employeurs. Si on arrive à résoudre pour le compte de nos clients la problématique liée à l'absentéisme injustifié, pour nous, c'est gagné. On a des clients qui sont on va dire, non pas victimes, mais subissent l'absentéisme plutôt que de le gérer. Bien sûr, ça a un coût pour l'entreprise, d'où aujourd'hui, nous, le service proposé, de pouvoir contrôler ces arrêts maladie. Le principe étant de faire passer un message fort aux salariés en disant on imagine que vous puissiez être en train de tricher, on n'est pas dupes, nous, on peut diligenter des contrôles.
Voilà, Franck Charpentier, patron de MediVérif. Vous avez compris, les archives que vous entendez, c'est l'excellente émission, hélas, défunte de Charles Villeneuve, Droit de savoir, qui, bien avant nous, avait traité ce sujet. Il s'agit, évidemment, vous l'avez compris, de défendre l'entreprise et de lutter contre l'absentéisme.
Franck Charpentier, j'ai 30 ans, je suis gérant de MediVérif. Je suis issu au départ de la grande distribution. J'étais dans un groupement d'indépendants dans une enseigne de la grande distribution.
Donc vous aviez un magasin, vous étiez gérant d'un magasin ?
Tout à fait. Grande surface alimentaire, 80 salariés.
Et donc, est-ce qu'à ce moment-là, vous avez fait appel à MediVérif ou des sociétés comme celle-là ?
Alors, sur certains cas identifiés, avec le recul, j'aurais pu faire appel à ce genre de service, tout à fait. Et puis, j'ai souhaité me réorienter professionnellement sur tout ce qui touche un petit peu à la santé au travail et à la gestion des risques, et notamment de l'absentéisme en entreprise, qui est un vaste sujet.
Alors, voilà, imaginons, moi, je suis chef d'entreprise. Qu'est-ce que je peux attendre comme bénéfice de votre intervention ?
Alors, il y a quand même un impact psychologique fort lorsqu'on met en place les contrôles. Aujourd'hui, il y a énormément de salariés qui ne savent pas qu'ils peuvent être contrôlés. Les premiers collaborateurs qui vont être contrôlés, ça va faire très très vite le tour. J'ai en tête l'exemple d'un client qui a des salariés qui travaillent sur beaucoup de sites, même éloignés. Le premier contrôle a eu lieu, le soir même, tous ses collaborateurs quasiment savaient qu'ils pouvaient faire des contrôles. Donc il y a eu un impact psychologique immédiat. Alors, quand un client fait appel à nos services au début, il y a une tendance à avoir plus d'injustifiés. Et puis, si vous voulez, au fur et à mesure qu'il utilise nos services, forcément, comme ses salariés ont tendance à savoir qu'ils vont être contrôlés, ont tendance aussi à moins tricher. Donc, les clients, au bout d'un moment, n'ont quasiment plus que du justifié. Pour nous, c'est gagné. Pour nous, c'est gagné. Ça veut dire que, effectivement, le paradoxe, c'est que c'est un client qui aura plus besoin de nos services.
Est-ce que vous avez des pourcentages des contrôles que vous faites chez les cadres, chez les employés ?
Non. Non. On tient absolument aucune statistique sur les salariés.
Vous n'en avez aucune idée?
Absolument pas.
Parmi ces 3000 médecins contrôleurs, le docteur Ernaud. Aujourd'hui, le cabinet privé l'a mandaté pour contrôler les arrêts maladie de plusieurs salariés de la Poste.
Allô, monsieur Claire?
Oui.
C'est pour un contrôle médical?
Oui.
À quel étage êtes-vous?
Premier étage, droite.
Alors, qu'est-ce qui vous arrive?
En fait, il y a une sorte de crise à mon travail patron-employé qui a été assez violente, à la suite de laquelle une grande partie de l'équipe, et notamment tous les permanents avec lesquels je travaille, ont été licenciés.
Vous êtes un permanent aussi?
Voilà, je suis un permanent, mais surtout, je suis le seul, en fait, à avoir un CDI. Et donc, en gros, c'est les choses classiques d'intimidation, de flicage et de on vous enlève du travail, on vous met pas au courant des nouvelles choses. Donc je suis allé voir un médecin pour qu'il me donne quelque chose pour me calmer et pour pouvoir dormir.
Alors comment vous appelez donc cet état, c'est ce comportement de votre employeur? Il y a un mot pour dire ça à votre avis?
C'est une sorte de harcèlement, oui.
Donc vous avez dit harcèlement. C'est le mot que j'attendais d'ailleurs. Je préciserai morale.
Voilà.
Alors, le harcèlement, comme vous le savez, autant que moi, sinon plus, est un problème judiciaire. Voilà, tout est dit. Alors, je vous dis tout ça pour que nous soyons bien d'accord là-dessus. Vous êtes jeune, vous avez l'air en bon état, vous ne prenez pas de médicaments. L'Exomil, les gens prennent ça à titre, sur un mode, tout en vaquant à leurs occupations.
Moi, je suis quand même... Ouais.
C'est un problème typiquement judiciaire. Alors, si je mets que l'arrêt est justifié médicalement, votre employeur va dire, mais ce monsieur-là, il n'est pas valable, il a des maladies, vous voyez. L'arrêt n'est plus justifié. Mais on va mettre reprise anticipée, de toute façon, vous reprendrez lundi. Au revoir.
Franck Charpentier, patron de Midi-Vérif.
La contre-visite, c'est une chose. J'ai effectivement des clients qui s'en servent comme outil très coercitif. J'en ai bien conscience, tout à fait.
Vous avez des cas de ça, alors?
Bien sûr. Enfin, je me doute bien que la plupart font du contrôle ciblé. Aujourd'hui...
Donc concrètement, l'outil que vous proposez est un outil... Donc vous dites que dans la majorité des cas, utilisé comme outil de coercition ou de pression sur le salarié.
Si vous voulez, le monde de l'entreprise, quoi qu'on en pense, est soumis du part et d'autre à des droits et des devoirs réciproques. Il y a des outils qui peuvent être coercitifs comme le contrôle médical, mais un outil coercitif me semble, moi, à mon avis, je ne vais pas dire indispensable, mais il faut qu'à un moment donné, on connaisse bien les règles.
Pour reprendre l'image que vous donniez du monde de l'entreprise dans laquelle le chef d'entreprise et les salariés ont à la fois des droits et des devoirs, est-ce que dans l'état actuel des choses, le dispositif de la contre-visite médicale n'augmente pas les droits des uns et les devoirs des autres?
Est-ce qu'il y a un réel déséquilibre entre le pouvoir de la contre-visite de l'employeur et les recours du salarié? Aujourd'hui, à mon sens, pas si évident que ça. Moi, j'ai repris cette activité il y a un an, je connaissais pas, hein, donc ça fait un an et demi que je connais, loin de moi l'idée de me dédouaner ou quoi que ce soit. Simplement, ça m'a permis de voir qu'il y avait effectivement autre chose derrière. Et certains constats que vous faites, je les ai faits moi-même. Je dis, effectivement, s'attacher juste à contrôler la personne qui est absente, ça suffit pas dans certaines entreprises. Ou dans certains cas, ça peut pas suffire. Est-ce que on met pas le doigt sur quelque chose de plus... Je vais pas dire plus grave, mais de quelque chose de plus important, plus profond dans l'entreprise. Voilà.
Toutefois, l'un des trois témoignages que vous mettez en exergue, il y en a trois témoignages qui sont sur votre site, l'un d'eux dit, je paraphrase, mais je crois que je suis assez proche, depuis votre visite, ça file droit.
Mais je fais avant tout du commerce quand même. Mon produit, il est là, il faut aussi que je le vende. Hein. Là-dessus, mon entreprise a vocation à se développer, bien évidemment.
Au produit, donner tout son temps, éliminer le maillon faible.
Les tocards, fliquer les faux malades, voilà notre sujet du jour, voilà l'activité de ces contre-visites médicales, ces petites officines qui se sont multipliées ces années dernières et qui fonctionnent très bien avec ces 3000 médecins quand même qui s'emploient à faire ces inspections médicales et ça a l'air quand même assez rentable, c'est autour de 50 euros la visite. Alors, des médecins comme le bon docteur Ernaud, ce brave homme, il y en a un certain nombre. Et puis, il y a d'autres médecins comme Isabelle Fortier, qui est conseillère confédérale à la CGT, à la médecine du travail, et qui nous apporte ses éclairages à elle.
Donc Isabelle Fortier, donc je suis conseillère confédérale à la CGT en charge de l'activité travail et handicap et je suis de formation médecin du travail. Ah ben on a reçu un courrier, tous les médecins, j'allais dire, enfin tout au moins dans mon département, mais je crois que c'était tout, sur toute la France, ont reçu des courriers pour demander de devenir médecin contrôleur de l'absentéisme. Alors c'était par des assurances privées, entre autres, hein, moi je peux en citer, hein, il y avait GAN, il y avait AXA, qui contactaient les médecins en leur demandant de devenir médecin contrôleur de l'absentéisme.
C'était quand ça ?
Je dirais 3-4 ans à peu près.
Vous avez donné suite ?
Moi, j'ai donné suite, oui, bien sûr, parce que j'étais intéressée, justement, pour faire, j'allais dire, du contre-pouvoir dans ce système-là, et non pas pour gagner de l'argent.
On gagne beaucoup d'argent en faisant ces contre-visites ?
Ah oui, en général, les médecins qui font ça ne font pas ça, j'allais dire, de façon bénévole, loin de là. D'ailleurs, ils n'ont pas besoin d'en faire beaucoup, puisque en moyenne, c'est entre 150 à 200 euros, avec les frais compris, bien sûr, frais de transport, etc.
Alors que lorsqu'on est médecin dans un cabinet conventionné, qu'on fait un déplacement, on peut espérer toucher combien ?
Ça doit être 35 euros, plus les frais de déplacement, en gros, on va dire 50 euros, quelque chose comme ça.
Donc en gros, trois fois plus pour le médecin de contrôle.
Tout à fait. Et je n'ai pas été retenue parce que je n'avais pas la possibilité de recevoir les gens dans un cabinet particulier.
Alors, ça m'étonne beaucoup parce que moi j'ai eu la chance de pouvoir suivre un médecin qui faisait des contre-visites et c'est lui qui se déplaçait. En fait, il rend service aux gens, il se déplace pour pas qu'ils aient à se déplacer eux, quoi. C'est plutôt sympa.
Oui, mais la législation, alors c'est vrai qu'il y a un vide juridique à ce sujet-là. Normalement, les personnes n'ont pas à laisser rentrer ces médecins-là chez eux.
Ce que vous dites, c'est qu'il y a un flou juridique, c'est-à-dire que la loi ne spécifie pas comment ça doit se passer, mais elle ne donne pas finalement le droit au docteur Ernaud, qui est le médecin que moi j'ai suivi, de se pointer comme ça chez les gens, de sonner à leur porte et leur dire bonjour, je vais entrer, parce qu'en général, c'est ce qu'il fait.
Oui, non, ça, effectivement, la loi ne prévoit rien, mais il n'a pas le droit de dire je vais rentrer, il n'a pas de perquisition pour pouvoir rentrer chez les personnes comme ça.
Je suis bien chez Monsieur Charlevin.
Oui.
Bonjour Monsieur, c'est pour un contrôle médical.
Oui.
C'est encore le docteur Ernaud qui a reçu la mission de contrôler un nouvel employé de la poste.
Monsieur, bonjour. Alors, qu'est-ce que vous avez, monsieur ?
En fait, j'ai une épitrophilite, donc ça s'est apparu donc il y a 2 ans presque. Et de temps en temps, la douleur revient, plus ou moins fortement. Donc c'est ici que j'ai la douleur.
Et est-ce que vous avez des fourmis dans les doigts ?
Quand je me réveille le matin.
Bien, montrez-moi ça. La pathologie que vous avez, monsieur, est l'une des plus difficiles à juger. Il n'y a aucun critère objectif. Alors, monsieur, j'ai pas beaucoup d'arguments pour dire que médicalement parlant, votre arrêt est justifié. Je n'ai pas d'argument. Alors, on vous a arrêté à partir du 14, donc avant-hier, jusqu'au 22. Le 22, c'est mercredi prochain. Je trouve que c'est un peu long. Vous avez des douleurs, c'est pas moi qui les sens, mais un arrêt de travail jusqu'au 22 me semble excessif. Reprise anticipée. Nous sommes le jeudi. Le samedi, vous travaillez aussi? On va mettre samedi, par exemple. C'est pour un contrôle médical.
Les absences de vos salariés vous découragent? Ne laissez plus l'absentéisme déstabiliser votre entreprise. Osez le contrôle médical. Baisse de productivité, frais de remplacement et de formation, désorganisation interne, démotivation des salariés les plus assidus, heures supplémentaires, détérioration de l'image de votre entreprise. Les arrêts de travail de vos salariés sont autant de pertes sèches pour votre entreprise. Grâce à nous, 50% d'absentéisme en moins, c'est possible. Notre mission, détecter, prévenir, dissuader les abus en matière d'arrêt de travail. Notre volonté, vous offrir un réel outil de management social. TIS, 67, rue Alsace-Lorraine, 31 000, Toulouse.
C'est pour un contrôle médical.
Eh ouais, on remet toutes ces feignasses au boulot. Voilà le travail du bon professeur, du bon docteur, docteur Ernaud. Alors, on a imaginé quand même de... Un dialogue entre Isabelle Fortier, je rappelle qu'elle est médecin du travail, conseillère confédérale à la CGT, et le patron, Franck Charpentier, patron de Medivérif. Et la rencontre a eu lieu en présence de Renaud Lambert dans les locaux de Medivérif à Luxeuil-les-Bains.
Alors, on a rencontré le patron de Medivérif, Franck Charpentier, et on lui a posé quelques questions sur la législation, notamment sur un point particulier qui est que parmi toutes les situations qui permettent de dire qu'un arrêt de travail n'est pas justifié, donc il y a lorsque la pathologie a disparu.
Là, la première chose, c'est médicalement injustifié, c'est-à-dire le médecin ausculte le salarié et considère que la pathologie en cause a évolué et ne nécessite plus un arrêt de travail. Donc, arrêt médicalement injustifié.
Bon, très bien, lorsque la personne n'est pas présente chez elle au moment où elle est normalement contrainte de l'être.
Il y a aussi le fait que le salarié puisse être absent de son domicile en dehors de ses heures de présence obligatoire. Un salarié doit être présent chez lui de 9h à 11h et de 14h à 16h.
Bon, d'accord. Et il y a aussi un autre point qui est un petit peu plus étonnant.
Le salarié peut également refuser de se soumettre à la contre-visite, ou alors n'a pas fourni des éléments suffisants dans son adresse pour permettre la contre-visite.
Absence d'indication sur la boîte aux lettres, ou absence de sonnette, absence d'interphone.
Donc dans tous ces cas-là, l'absence est considérée comme injustifiée. Ça veut dire que, légalement, l'employeur est en droit de suspendre le complément de salaire.
Voici donc la question que pose Isabelle Fortier à Franck Charpentier, patron de Medivérif.
Est-ce que les salariés ont l'obligation d'avoir une sonnette à leur porte? Sur quel texte de loi vous vous basez pour dire que la personne n'était pas présente à son domicile?
La jurisprudence est très claire là-dessus. Un salarié doit tout faire pour se soumettre à la contre-visite.
C'est quoi le texte de loi qui dit ça?
C'est une jurisprudence. La plupart sont définies de manière jurisprudentielle.
Ça serait intéressant que vous nous fournissiez ça, parce que franchement, là, on est très très interpellés par rapport à ça, parce que je ne connais pas du tout cette jurisprudence qui oblige effectivement un salarié à avoir un digicode et à avoir l'obligation de pouvoir se mettre en mesure de répondre à quelqu'un qui vient l'interpeller à son domicile.
Vous pouvez nous en donner les références de cette jurisprudence qui...
Je les connais pas par cœur, mais je les ai, ça y est.
D'accord. Bah, ok. Alors, on prendra un petit peu de temps tout à l'heure pour que vous puissiez nous les donner.
Bonjour et bienvenue à Travail Info Service. Alors, il faudrait appeler donc la délégation à l'information et la communication du ministère.
D'accord.
Service presse.
Oui, bonjour madame.
Vous pouvez peut-être vous adresser à la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés directement. Je pense qu'ils peuvent vous renseigner à la CNAMTS. Bonjour.
Oui, bonjour madame.
Oui. Il faudrait que vous vous renseigniez auprès des caisses primaires.
Caisses primaires. Vous pourriez me donner un numéro de téléphone?
Bonjour.
Oui, bonjour madame. Je suis à la recherche d'une information.
Ministère du Travail ou sur, je ne sais pas, après, les employeurs se basent bien par rapport à
au code du travail. Donc, dans le code du travail, ils vont pouvoir vous...
Eh bien, je me suis fait exactement la même remarque que vous, ce qui m'a amené à appeler le ministère du Travail, qui m'a renvoyé vers la Direction Générale du Travail, qui m'a renvoyé vers la CNAM, qui m'a renvoyé vers vous. Vous voyez, mon désarroi.
On peut pas le laisser comme ça, ce pauvre Lambert. Il veut absolument savoir la vérité. Alors, on lui a suggéré de se tourner vers Marie-Christine Alperne, avocate spécialisée dans le droit de la sécurité sociale.
Bonjour et bienvenue à Travail Info Service. Alors, il faudrait appeler donc la délégation à l'information et la communication du ministère.
D'accord.
Service presse ?
Oui, bonjour madame.
Vous pouvez peut-être vous adresser à la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés directement. Je pense qu'ils peuvent vous renseigner à la CNAM TS. La CNAM, bonjour.
Oui, bonjour madame.
Oui. Il faudrait que vous vous renseigniez auprès des caisses primaires.
Caisses primaires. Vous pourriez me donner un numéro de téléphone ?
Bonjour.
Oui, bonjour madame. Je suis à la recherche d'une information.
Ministère du Travail ou sur, je ne sais pas, après, les employeurs se basent bien par rapport au code du travail. Donc, dans le code du travail, ils vont pouvoir vous...
Eh bien, je me suis fait exactement la même remarque que vous, ce qui m'a amené à appeler le ministère du Travail, qui m'a renvoyé vers la Direction Générale du Travail, qui m'a renvoyé vers la CNAM, qui m'a renvoyé vers vous. Vous voyez, mon désarroi.
Vous avez compris, on a eu un petit bug, ce qui nous a permis de réécouter les démarches de notre Renaud Lambert. Alors, on ne pouvait pas le laisser dans ce désarroi, je vous l'ai dit, et... Il s'est donc tourné, nous lui avons conseillé de se tourner vers Marie-Christine Alperne, avocate spécialisée dans le droit de la sécurité sociale.
Allô ?
Oui ?
Oui, bonjour monsieur, je suis Marie-Christine Alperne.
Ah, bonjour madame. Voilà, je suis journaliste à France Inter.
Oui.
Et je suis à la recherche d'une information que j'ai vraiment du mal à obtenir.
Je vous écoute.
Si, par exemple, le nom de l'employé n'est pas sur son interphone, s'il n'y a pas de sonnette, si on n'arrive pas à entrer chez lui, eh bien, à ce moment-là, l'arrêt est injustifié. Et concrètement, l'employeur peut arrêter de verser les indemnités qu'il verse.
Ah bon ?
Oui.
C'est la première fois que j'entends parler de ça. Hein. Pour parler en vulgairement, c'est carrément dégueulasse. Hein. Moi, je suis la jurisprudence en droit de la sécurité sociale, enfin bon, droit du travail et de la sécurité sociale, voyez. Mmh. Et je l'aurais vu passer cette jurisprudence. Ça, à mon avis, c'est tellement injuste. Hein, à mon avis, n'importe quel tribunal ordonnera le versement des indemnités, hein, parce qu'on ne peut absolument pas s'abriter derrière ça. Yeah. Ouais, mais moi, ça m'interpelle quand même, parce que déontologiquement, à mon avis, ils sont en plein viol de la déontologie. Hein. Et le directeur, le PDG de cette Medivérif, là, c'est un médecin ou c'est un businessman ?
C'est un type qui a bossé au préalable dans la grande distribution.
Ah ouais, d'accord.
Les patients, on est utile pour eux parce qu'on les force parfois à se rendre compte eux-mêmes de leur propre état. Parce qu'il y en a qui s'incrustent dans une situation de non-travailleurs, ils se plaignent tout le temps et puis ils finissent par obtenir l'invalidité, mais ils ne sont plus valables pour rien.
Alors, depuis juin 2008, il y a un nouveau décret. Qui fait qu'en fait, on va un pas plus loin dans les mesures qui peuvent découler d'une contre-visite médicale.
Oui, tout à fait. Comme la Sécurité sociale avait comme objectif de diminuer les arrêts de travail donc des personnes, parce qu'on considère que toute personne qui s'arrête abuse, et triche, les médecins conseils, comme on les appelle, je dirais plus au contrôle, de la Sécurité sociale ne sont pas assez nombreux pour faire tous ces contrôles. Donc ils ont conventionné, à titre expérimental, jusqu'à fin décembre 2009, avec des médecins contrôleurs de l'absentéisme, qui ont la possibilité, effectivement, de donner leur compte-rendu aux médecins conseils, et les médecins conseils, après, prennent la décision, ou non, bien sûr, hein, ils sont libres, ou non, de suspendre l'arrêt de travail. Et dans les 48 heures, la personne est obligée de reprendre son travail, sinon, elle ne touche plus rien.
Coercitif, voilà, le mot qui revient, c'est coercitif. Alors, vous avez compris que nous, à la base, si j'y suis, nous sommes partisans de la prolongation indéfinie des arrêts du travail, parce que quand vous êtes chez vous, ben, ça nous fait des auditeurs en plus. Quand vous êtes au boulot, ça nous en fait perdre, sauf si vous êtes camionneur, si vous êtes routier, si vous êtes dans votre voiture et tout ça. Donc on est plutôt pour la prolongation des arrêts du travail. Non, on rigole, mais c'est assez terrifiant cette histoire. Et il y aurait donc une piste là. Viol de la déontologie, a dit cette avocate. Il y a peut-être un lézard qui serait intéressant de suivre. On retrouve Isabelle Fortier, conseillère confédérale à la CGT et médecin du travail.
Une boîte comme Medivérif met en avant sur son site internet le fait que voilà, il y a un client très satisfait qui dit voilà, maintenant dans mon entreprise ça file droit, on baisse l'absentéisme, on diminue l'absentéisme. D'autres entreprises du même type vont jusqu'à dire augmentation de la productivité. Donc en fait, ces médecins exercent au service de l'augmentation de la productivité. Mais bon, dans une période de crise financière où la croissance est en berne, c'est plutôt positif ça, non?
Bah, c'est positif, oui et non, parce qu'on arrive à remettre au travail des personnes qui ne sont absolument pas stabilisées et dont l'état va s'aggraver. C'est-à-dire qu'on prend vraiment la personne pour un outil de productivité, et quand elle est cassée, bah, ma foi, elle s'en va ou on la jette. Hein. Donc c'est pas pour les personnes, bah, pour l'entreprise, c'est peut-être productif, mais pour les personnes, certainement pas, parce que ça aggrave, entre autres, les inaptitudes. Donc, elles sont sorties de l'entreprise, elles se retrouvent au chômage.
Ce que vous décrivez là, c'est un phénomène par lequel, au sein d'une entreprise, la quête de productivité va... Ça va avoir un aspect positif, qui est l'augmentation des profits, donc croissance. Tout ça, on adore tous, évidemment, surtout en période de crise financière, c'est très bien. Mais ça va avoir un aspect négatif, qui a un impact sur la santé des travailleurs. Sauf que cet impact, il n'est pas pris en charge par les entreprises, il va être pris en charge, en fait, par la société.
Tout à fait, c'est ça, tout à fait, vous avez très bien décrit, c'est tout à fait ça, ça va être pris en charge par la société. Donc effectivement, les médecins normalement doivent s'occuper de la santé des salariés ou des personnes qu'ils soignent, tandis que là, les médecins contrôleurs de l'absentéisme, effectivement, s'occupent de la santé financière de l'entreprise.
Donc on a une privatisation des bénéfices de l'exploitation, en fait, ou en tout cas de l'augmentation de la productivité, et une socialisation des dégâts.
Oui, tout à fait, c'est tout à fait ça. Et les médecins, malheureusement, les médecins contrôleurs de l'absentéisme, y contribuent.
Merci à toutes et à tous. C'était un reportage de Renaud Lambert. Merci à Franck Charpentier, à Isabelle Fortier, à Charles Villeneuve et aux malades qui recevaient la visite du bon docteur Ernaud. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter à la rubrique émission Là-bas si j'y suis, où vous pouvez réécouter cette émission et nous communiquer vos impressions, vos commentaires, vos coups de gueule et vos coups de cœur. Vous pouvez également le faire sur là-bas.org, là-bas.org. Vous pouvez faire la même chose, réécouter indéfiniment cette émission et faire vos commentaires. À la technique aujourd'hui, Pascal Baldassari et Cédric Lalanne, c'est Coy Nguyen et Raphaël Moutert qui ont réalisé cette émission assistée de Charlotte Perry et Agnès Lebot, la chef du répondeur, attend vos messages au répondeur de la base, j'y suis, dont le numéro est le 01 56 40 37 37. 01 56 40 37 37. Et puis il y a aussi le mail de l'émission qui est daniel.mermet@radiofrance.com.